1982-2022, Radio Alpa, 40 ans de radio libre.
Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Aujourd'hui, pour fêter les 40 ans de la radio, c'est Perles de Culture qui, tel le phénix, renaît de ses cendres et revient sur les ondes pour vous accompagner jusqu'à 21h. Magnanime, je reçois aujourd'hui les trois animateurs qui me prêtent ce créneau, Simon Peverelli, Salouane Bendris et Thomas Lebouc de l'émission La Percée de l'Histoire. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et je suis accompagnée de mon acolyte radiophonique Yann Béneux. Bonsoir Yann.
Bonsoir Hélène.
Pour commencer, j'ai envie de souhaiter un très bon anniversaire à Radio Alpa, bien sûr. Pour moi, Radio Alpa, c'est synonyme de beaucoup de plaisir, de rencontres, des événements et la découverte de l'envers des émissions radio qui était un univers qui m'intéressait et qui m'intriguait depuis longtemps.
On a la chance de vous recevoir encore sur Radio Alpa. Je voulais savoir, tu as animé Perles de Culture pendant combien de temps ?
Pendant 3 ans. J'avais 30 minutes, une fois par semaine, avec des invités du milieu culturel. On parlait théâtre, expo, livres, on a abordé beaucoup de sujets. Et j'arrivais au Mans, moi, à l'époque, on était en 2012. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et surtout de vivre une expérience incroyable.
Et c'était ta première expérience avec la radio ?
Oui. Alors, j'ai toujours eu un attrait pour la radio depuis que je suis au lycée, à l'internat. J'écoutais les émissions libres du soir sous ma couette pour pas déranger les colocs. Ensuite, pendant mes études à Paris, je passais souvent devant les radios et je regardais à travers les vitres. Vous savez, comme d'autres devant des pâtisseries, devant des vitrines, avec gourmandise comme ça. J'écoutais les chroniques le matin et je me disais, mais je pourrais faire ça vraiment, j'en avais envie. Et puis, quelques années après, je suis arrivée au Mans. Et je connaissais personne, je regardais ce qui se faisait un petit peu dans les assos, dans le milieu culturel. Et je suis tombée sur un prospectus de la MJC Prévert avec l'encart sur Radio Alpa et l'annonce « Toi aussi, anime ton émission, deviens bénévole ». Voilà, le lendemain, j'étais ici dans le studio.
Et tu te souviens de ta première émission ?
Alors, je me souviens très bien de l'émission pilote et surtout de ma rencontre avec Jean-Yves. Donc je sais que Jean-Yves nous écoute à côté. On s'est d'abord rencontrés, on s'est présentés, il m'a parlé de la radio, de l'esprit, du fonctionnement. Je lui ai expliqué que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt une émission culturelle. Je lui ai dit que je pourrais proposer une émission, 30 minutes, avec des invités, en commençant par un édito, un peu façon France Inter. Et là, il a rigolé, il m'a dit que je mettais la barre un peu haut pour une première, mais pourquoi pas, qu'on pouvait faire un essai. Donc j'ai préparé mon pilote, j'ai trouvé un invité, je lui ai expliqué que c'était un enregistrement test, qui aurait peut-être pas de diffusion, et quelques semaines plus tard, enregistrement. Jean-Yves écoute de son bureau, comme là en ce moment. L'émission se passe très bien, enfin en tout cas, selon moi, se termine, l'invité part. Et Jean-Yves me rejoint et me dit « C'est très bien, intéressant, construit, je te diffuserai à 1h du matin ». Et là, je me suis dit « Mais il n'y a personne qui écoute à 1h du matin ». Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que j'avais une voix de nuit, parce que je parlais comme ça. Bonjour et bienvenue dans Perles de Culture. Aujourd'hui, je reçois une compagnie de théâtre qui parcourt les routes avec leur spectacle. Une voix chaude et monocorde, adaptée aux émissions nocturnes. Voilà. Alors, il m'a tout expliqué, que le sourire s'entend aussi à la radio, qu'il ne faut pas parler trop vite, ne pas avoir de mots parasites, les « d'accord, ah oui, quand les invités parlent ». Il m'a transmis son expérience et j'ai essayé de travailler sur tout ça. Et finalement, il m'a programmé à 18h30.
Et après, tout s'est bien passé ? Tu as pris tes habitudes ici et t'es devenu accro, comme nous, à la radio. Et ça fait pendant 3 ans, du coup, t'as animé ton émission.
Ouais, je suis restée 3 ans. C'est exactement ça. J'ai rencontré toute l'équipe, notamment Fred, qui m'a expliqué la technique. Parce qu'il faut savoir que quand on est bénévole à Radio Alpa, on fait aussi la régie. Voilà. Alors aujourd'hui, merci Simon, parce que j'ai juste eu à m'occuper du contenu.
Et du coup, après Perles de Culture, tu as arrêté la radio ?
Pas tout à fait, parce que bah, pour mon plus grand plaisir, et merci Jean-Yves, il a continué de me contacter pour les plateaux de la Frama sur la 25e heure du livre. Donc une fois par mois, je suis revenue pour rencontrer des autrices, des auteurs, les interviewer. Et ça m'a aussi permis de rencontrer les autres radios. Et ça, j'ai adoré. Et je pense notamment à Radio Ornithorync, Ludo, Fred, toute l'équipe du Grandet, Teddy, Patoche, si vous m'entendez. Big up de la part de Yann et moi, puisque grâce à vous, Ludo, toute l'équipe d'Ornito, est née notre collaboration avec Yann, puisqu'ils nous ont proposé de venir faire une chronique il y a 2 ans maintenant, et on avait carte blanche.
Ouais, je m'en souviens très bien, Hélène. C'était effectivement il y a 2 ans, pour la Saint-Valentin, plus exactement, de l'année 2020, donc peu de temps avant qu'on se retrouve tous confinés. Hein. Et bah, on avait décidé de faire une chronique sur le thème de l'amour, évidemment, pour la Saint-Valentin, c'était plutôt bien fait. Et pour ça, on avait décidé de choisir comme nom de chronique « C'est pas la taille qui compte ». Voilà, une chronique art et science, comme son nom l'indique. Voilà, l'idée, c'était de traiter des sujets voilà, étendus, fugaces, de l'infiniment petit qui nous façonne à l'infiniment grand qui nous échappe.
Et quelles étaient tes sources ou tes inspirations à toi, Yann ?
Alors moi, pour commencer, ce qui m'a amené vers la radio, c'était déjà de l'écouter, parce que je l'écoute très souvent le matin, voilà, pour aller au travail dans la voiture. Et puis, j'avais envie un petit peu de développer un petit peu mes connaissances, de voir à quoi ça pouvait ressembler. Et puis aussi pour... un petit peu reproduire le geste de ceux que j'aime bien, je pense notamment à des youtubeurs comme Dirty Biology ou Manon Bril, que je suis assez régulièrement voilà, sur leur réseau et sur leur chaîne YouTube, donc j'avais envie un petit peu de reproduire le même genre de contenu.
Voilà, et c'est pour ça que quand Radio Alpa m'a proposé ce créneau à l'antenne pour l'anniversaire, je me suis dit qu'on allait parler de souvenirs, de 40 ans, de mémoire individuelle, collective. Et donc, tout naturellement, j'ai convié Yann pour une nouvelle chronique art et sciences sur le thème, cette fois, de la mémoire. D'autant qu'en tant qu'historien, messieurs de la Perse et de l'histoire, c'est un thème qui devrait vous parler.
Oui, alors effectivement, Hélène, on va parler de mémoire. Et pour commencer, tout à l'heure, Hélène, elle a raconté ses premiers souvenirs à la radio. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, messieurs, de faire la même chose. Racontez-moi votre première expérience à la radio. Chacun votre tour, comme vous l'avez vécu.
Quelqu'un veut commencer ?
Qui commence ?
C'est la question.
J'en profite juste très rapidement pour remercier ceux qui sont déjà là. Il y a Raymond Hennington, Faris, Lully Shop et Justine Gênes qui nous font coucou.
Merci. Voilà. Merci.
Salut Justine.
Salut.
Ouais, j'ai commencé alors.
Et vas-y.
Alors, il faut savoir que c'était en 2019, je me souviens très bien. On était la dernière émission à commencer, parce qu'on avait pris du temps. Alors, comment c'était venu cette idée de faire de la radio ? C'était venu grâce à une ancienne membre de l'équipe qui s'appelait Morgan Durand et Simon aussi. En fait, ils avaient fait l'UEO radio parce que depuis, il y a eu un partenariat avec Radio Alpa et puis l'université. Et donc, on avait passé tout le mois de septembre-octobre au studio Météor pour faire tous les jingles, pour savoir qu'est-ce qu'on allait dire, qu'est-ce qu'on allait faire. En fait, on a vraiment construit l'émission là-bas. Et vient le premier jour, donc en novembre, je ne me rappelle plus c'est quel jour précisément.
Et c'était, ça se passait ici, hein, c'est ça?
Ça se passait ici, oui, tout à fait. Donc on arrive, tout le monde s'installe, un peu stressé, tout ça, machin. Et là, il y a un monsieur qui rentre. On ne sait pas qui c'est. Et ce monsieur, il s'appelle Karl. Enfin, en tout cas, il se dit comme tel. Donc, oh, il discute, machin, c'est rigolo, là, là, bon, bref. Et puis, on est à 10 minutes du direct, 5 minutes, et il est toujours là. Donc, du coup, je me souviens très bien qu'il avait demandé, « Ouais, non, mais maintenant, faut me foutre dehors. » Il avait dit ça comme ça, texto. Donc, Salouane l'a pris au mot, il l'a pris par le col, et puis je me souviens qu'il l'a balancé comme ça. Enfin, n'importe quoi. Première émission, super. Alors, moi, je n'étais pas encore chroniqueur. Alors, je me suis ainsi dans le fond, et puis j'ai regardé ces messieurs dames faire leur émission. Et c'était franchement super. En tout cas, c'était génial.
Super. À moi.
À toi, Salouane, vas-y. Dis-le comment tu l'as vécu.
Le début est à peu près pareil, donc je ne veux pas revenir dessus, mais c'est quasiment la même chose. Donc le studio Météor à l'université, où on a préparé les génériques, les jingles, une première version, une deuxième version, une troisième version. On a fait ça, oui, pendant septembre, octobre, et du coup, et novembre, première émission, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était juste après le 11 novembre. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là. Juste après le 11 novembre, et donc, ouais, on prépare notre émission, on est là dans le studio, en direct, et 10 minutes du direct, la porte s'ouvre, la porte du studio s'ouvre, et un homme rentre. Salut, c'est Karl. personne ne le connaissait, mais lui connaissait les lieux. Parce qu'il est venu et il s'est assis tout de suite au studio. Il s'est même servi de l'eau à la fontaine et tout. C'était vraiment... Il était chez lui ici, quoi.
Ah oui.
Et ouais, après, il s'est assis justement à ta place, Yann. Et il s'assoit et il commence à nous raconter des choses. Et j'ai un souvenir, il nous avait raconté « Ouais, j'avais testé ce bar-là. » Et en fait, ce bar-là, il est incroyable. Faut y aller, machin. Ça vous dit, on y va. Et nous, non, on peut pas. On a une émission dans 5 minutes, donc faut partir, là. Et c'est à ce moment, ouais, où... Du coup, je rejoins Thomas et il nous sort la phrase de « Ouais, mettez-moi dehors ». Et donc, à ce moment-là, bon, je l'attrape et je lui dis de sortir.
Mot, ouais.
Je lui dis de sortir et après, je referme la porte à clé derrière. Comme ça, on a pu commencer tranquillement notre émission avec ce stress en moins.
Et il n'est jamais revenu après.
Et on ne l'a jamais revu.
C'est ça.
Vous n'avez jamais su réellement d'où il venait et qui il était.
Il est apparu comme ça, 10 minutes, il est reparti, on n'a jamais revu.
Il n'y a pas d'autres bénévoles à qui c'est arrivé. Quoi. C'était pour vous.
C'est vraiment pour nous, quoi.
Et Simon ?
Après, je crois que... Bah, alors, du coup, moi, en fait, là, je ne sais même plus, là. Parce que vous m'avez rappelé plein de trucs, mais moi, j'avais une version très brute du truc. C'était vraiment que...
Bon, je suis venu, puis j'ai fait l'émission.
Ouais, voilà. En fait, j'ai peu de souvenirs, finalement, de ça. Je me souviens juste qu'il y a ce monsieur qui est rentré avec une veste en cuir, je crois, d'ailleurs.
Oui.
Ouais. Et donc, il est rentré, il s'est installé. Je crois que c'était... Alors, vous pouvez plus voir, parce que donc, ça a coupé sur Internet. Mais donc, c'était au bord de la table par là.
Oui, Salouane a dit que c'était
oui,
à la place
de
Yann.
Ah bah voilà, exactement.
Bah, super.
À la place de... Oui, ce que j'ai pas écouté, pardon. Et donc, oui, il est rentré, assez alcoolisé.
Oui, ça, on l'a pas rappelé.
Ça, ouais. Qui m'a marqué, c'est qu'il était alcoolisé, qu'il racontait un peu tout et n'importe quoi. Et qui donc commençait à nous dire, voilà, c'est super ce que vous faites, c'est génial, c'est quoi votre émission? Et en fait, il connaissait pas l'émission, il avait pas... Il écoutait
c'est pas
parce
possible.
Que c'est parce que c'est pas possible, en fait. Voilà. Ah, ça a l'air bien et tout. Et puis, il s'est installé, il voulait plus ou moins participer. En tout cas, moi, je crois qu'il me semble qu'il voulait participer à l'émission. Et que, voilà, quelques minutes avant, peut-être même secondes avant... Salouane, t'as réussi toi à le faire partir. Alors je me souvenais pas que c'était sa volonté, mais moi j'ai juste dit que toi tu l'avais fait sortir, voilà, de force et que. Mais par contre, on l'a revu pas dans le studio, mais il me semble en ville. Moi, je suis persuadé de l'avoir revu. Ah, j'en suis sûr.
Peut-être, mais.
Et on avait dit ouais.
Ah, donc finalement, c'était peut-être pas vraiment un fantôme.
Non, cette personne existe.
C'est un vrai mec.
Alors, où, comment et qui, pourquoi, je vais pas
toutes
les répondre.
Les questions, ouais.
Mais je sais qu'il existe.
En tout cas, c'est fou, Yann. Enfin, t'as vu comme le même événement peut être raconté différemment par trois personnes. En tout cas, pas avec les mêmes détails. Il se rappelle pas exactement la même chose.
Oui.
Bah comment oui, c'est vrai. Ça, toi
bah, alors, c'est très intéressant. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu à ce que vous avez dit chacun de votre côté, mais voilà, on a Thomas qui était. Toi, tu étais concentré plutôt sur Karl, sur l'émission à la fin qui était super et tout. Tu étais bien content de ça. Salouane, toi, tu te souvenais carrément de la date. C'était ouais. Impressionnant. Le 11 novembre, quoi. C'est dingue.
Peu de temps après le 11 novembre.
La semaine après ou le mardi d'après.
Ça a dû avoir beaucoup d'importance pour toi, ou je sais pas, en tout cas, t'as vachement parlé de Karl aussi, t'as beaucoup détaillé ce qu'il avait fait, où est-ce qu'il s'était assis, à ma place exactement, etc. Donc ça, c'était intéressant. Puis Simon, toi, bah, comme tu l'as dit toi-même.
Le brouillon.
Comme tu l'as dit toi-même, tes souvenirs étaient bruts, mais en fait, finalement, pas tant que ça, parce que tu te souvenais quand même que vous l'aviez revu dans la rue après, ce mec. Ouais. Donc c'était pas si brut que ça. Tu te souviens aussi qu'il était alcoolisé. Ça, il y en a quand même deux qui sont passés avant et qui ne l'ont pas précisé. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de voir à quel point, au final, bah, selon la perception qu'on a, on retient les souvenirs différemment. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications, j'aimerais vous parler de comment fonctionne notre pensée. Parce qu'au final, la pensée et la mémoire, comme vous pouvez vous en douter, c'est très lié. Donc, grâce à notre pensée, hein, notre capacité à comprendre ce qui nous entoure, à l'analyser, on arrive à enregistrer dans notre mémoire nos souvenirs, sauf que penser, ça demande un effort. Alors, un petit exercice. Pour commencer, je vais vous poser un problème simple, et vous devrez y répondre sans réfléchir. J'insiste bien sur le sans réfléchir, hein, c'est du tac au tac. Imaginez que vous achetez une raquette de tennis et, à côté, une balle. En tout, vous en avez pour 110 euros, et vous savez que la raquette coûte 100 euros de plus que la balle. Sans réfléchir, combien vaut la balle ? 10 euros ? 10 euros, ouais, mais pas du tout. Si vous faites le calcul, elle vaut pas 10 euros, elle coûte 5 euros. Parce que si je prends 10 euros, que je rajoute 100 euros, bah ça fait 110 euros, et c'est censé être le prix de la raquette. Mm-hmm. Sauf que vous en avez en tout pour 110 euros. Mm-hmm. Et c'est là qu'est le problème. La balle, elle vaut 5 euros. Si je prends la balle à 5 euros, je rajoute le prix de la raquette, 105 euros, j'arrive à 110 euros. Donc ça, pour illustrer ce raisonnement, je vais prendre l'analogie d'un autre youtubeur que j'aime beaucoup, de vulgarisation scientifique, Derek Muller, de la chaîne Veritasium, s'il y en a qui connaissent. Selon lui, il illustre ça comme ça, votre pensée fonctionne comme un duo. Deux personnages, on va les appeler Bob et Guillaume. Vous êtes Guillaume, c'est votre conscient, votre voix intérieure qui regarde ce qu'il se passe autour de vous et qui les commente. Il est capable de comprendre ce qui vous arrive, d'effectuer des calculs complexes, d'analyser des situations. Le seul problème, c'est qu'il est feignant. Il aime pas faire d'efforts, il travaille lentement, mais c'est celui qui est attentif et qui se rend compte de ses erreurs. Bob à côté, il est très rapide, il passe son temps à traiter toutes les informations que vous lui envoyez. Parmi celles-ci, il garde que les plus importantes, le reste est tout simplement évité, et quand on vous demande quelque chose, il va tout de suite chercher à savoir s'il le connaît. Si c'est le cas, il donne la réponse immédiatement, et tout ça sans que vous ayez besoin de lui demander. C'est votre inconscient.
Mais pourtant, il fait des erreurs, regarde tout à l'heure.
Oui, et heureusement, tous les deux travaillent de concert pour vous permettre de comprendre ce qui vous entoure, d'accumuler l'expérience, bref, d'apprendre. Vous voyez où je veux en venir ? Guillaume représente votre mémoire à court terme, ou mémoire de travail. C'est celle qui vous permet de réfléchir, de retenir rapidement une information et de faire vos exercices de maths, par exemple. Grâce à Guillaume, vous pouvez vous souvenir du numéro de cette personne, le temps de le noter sur votre téléphone. En tout, il est capable de retenir entre 4 à 6 informations qu'il stocke rapidement et qu'il garde à portée de main au cas où. Bob, quant à lui, représente votre mémoire à long terme. Il a accès à tous les tiroirs de votre mémoire, tous les classeurs de votre pensée, cette grande bibliothèque que vous construisez au fur et à mesure de votre vie. Comme il est votre inconscient, c'est lui qui vous donne vos réflexes, vos habitudes. Dans l'exemple qu'on vient de voir, le calcul était très simple. Guillaume s'est pas embêté à chercher la réponse, Bob croyait savoir comment faire, il a donc dit ce qui lui semblait plus logique et Guillaume lui a fait confiance, 10 euros. Sauf que c'était pas bon. Avant d'aller plus loin, et pour illustrer un petit peu plus ça, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Je vais vous donner 4 chiffres que vous devrez retenir.
Alors il l'a testé sur moi, c'est pas si facile.
T'es moi à l'appui. 4 chiffres que vous devrez retenir. Pas longtemps, je vous rassure, on va pas... Une fois que vous connaîtrez ces 4 chiffres, vous devrez rajouter un à chacun et me les redonner à chaque bip. Je vais vous donner un exemple. Je vais lancer un métronome, je ne sais pas si ça va bien s'entendre. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez.
Si on l'entend.
Donc si je vous donne 1, 4, 2, 7, à chaque bip, vous me direz 2, 5, 3, 8. C'est important de dire vraiment les chiffres sur chaque bip.
Vous avez compris?
Ouais. Mais je pense que ça va très mal se passer.
C'est très drôle.
Il faut juste rajouter un à chaque chiffre. Okay.
Docteur Kawashima, c'est parti.
La référence.
Et ça, c'est le niveau 1.
C'est le niveau 1.
Ouais. C'est le niveau 1.
Ah, alors on fera pas les autres niveaux.
C'est parti.
Vous êtes prêts?
Oui.
Alors, voilà les chiffres. J'ai lancé le métronome. Donc, les chiffres pour nos auditeurs, c'est 8, 2, 3, 6. Allez-y.
9, 3, 4, 7.
À vous deux, on avait les quatre bonnes réponses.
Ouais.
Je me suis déjà trompé.
Donc,
bravo.
Qui a dit 9, 3, 4, 7?
Je crois que c'est
Salouane.
Bon,
Salouane,
c'est
okay.
Bravo.
Alors, ça ne veut rien dire. Hein.
J'ai oublié.
Ça veut dire beaucoup.
Ça veut rien dire. Non, ce qui est intéressant, alors pour complexifier l'exercice, on peut aller un petit peu plus loin en n'ajoutant pas 1, mais 3. Mais du coup, bon, voilà, on n'a pas forcément le temps de le faire, il faudrait noter, faire des équations et tout ça. Non, ce qui est intéressant de voir au moment de cet exercice, c'est que quand vous m'avez redonné ces chiffres en rajoutant un à chaque fois, vos pupilles se sont dilatées. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que votre Guillaume était en train de travailler. Vous étiez en train de réfléchir, en traitant l'information qui était stockée sur de la mémoire à court terme. Et quand Guillaume travaille dur pour faire quelque chose, par exemple pour lacer ses chaussures, il donne l'information à Bob. Au bout d'un moment, à force de recevoir la même information de Guillaume, Bob va créer un nouveau tiroir dans votre bibliothèque et il retient l'information. Vous apprenez, vous vous souvenez, tout simplement. Plus en détail, la mémoire à long terme qui est représentée par Bob ici dans l'exemple, elle se divise en quatre grandes branches. En premier lieu, la mémoire procédurale. C'est celle qui permet de retenir les habitudes, d'apprendre une compétence, un savoir-faire, comme lacer ses chaussures. C'est la mémoire de l'inconscient. En second, on a la mémoire épisodique. C'est celle que vous consultez quand vous vous rappelez vos dernières vacances, quand vous racontez votre film préféré. C'est aussi ici que vous allez piocher pour prévoir votre journée de demain ou vos prochaines vacances.
Mais la mémoire, c'est le passé. Comment est-ce qu'elle peut nous servir pour le futur?
Justement, Hélène, pour aller voir le futur, il y a un terme qu'on utilise, c'est on visualise. On va visualiser nos vacances. Et justement, on visualise, on se sert de ce qu'on connaît déjà pour imaginer ce qui pourrait arriver. C'est d'ailleurs pour ça que les patients atteints d'amnésie épisodique ont des difficultés à se projeter dans l'avenir.
Ouais, alors que là, Salouane, tu vois, il se visualise là sur une plage l'été prochain.
En troisième position, on continue sur la mémoire sémantique. C'est celle qui retient votre culture G. Les rois de France, le sens du mot trisqué décaphobie.
Ah oui, bien sûr, tout le monde connaît ce mot, Yann.
C'est la peur,
c'est, la
du,
peur
du nombre 13.
13.
Elle contient aussi votre identité, votre âge, votre sexe. C'est grâce à elle que tout le monde se rappelle à quelle date la France a gagné sa première Coupe du Monde. Souvenez-vous, c'était le
12 juillet 98.
Oui, merci. Et enfin, la mémoire perceptive. Vous y enregistrez l'odeur des chichis de la fête foraine. Celle où vous alliez avec vos parents il y a combien de temps déjà? À chaque fois que vous repassez devant cette place, vous la sentez de nouveau. Vous entendez la musique. Vous voyez les lumières des manèges qui tourbillonnent dans les airs. Mais attendez, c'est la première fois que vous passez par ici? Et pourtant, c'est comme si vous l'aviez déjà fait 1000 fois. Vous l'avez compris, celle-ci est basée sur notre perception, nos sens. Et c'est d'elle que nous vient cette impression de déjà-vu. C'est la fameuse Madeleine de Proust.
Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul.
Rien qu'à entendre ces mots, on le sent aussi, le goût de la Madeleine. Mais Marcel Proust n'a pas été le seul à traiter des souvenirs dans ses œuvres. Et ce n'est pas réservé qu'à la littérature. On va par exemple écouter un petit extrait d'environ 1 minute. Vous me direz si vous reconnaissez le film.
Les hommes de mémoire.
Mais joie, on était presque... Oh.
Numéro de téléphone, ça sert à rien, ils sont tous dans son portable.
Excusez-moi,
je débarrasse tout ça. On oublie.
Nous cherchons l'île de l'amitié.
Moi, ça 4 ans de leçon de piano.
Ouais, c'est déjà presque effacé.
On garde la lettre à Élise et au clair de la lune et vire le reste. Et pour les présidents américains
On garde Washington, Lincoln et le dernier.
On oublie.
Tu peux pas faire ça. Ces souvenirs sont en parfait état.
Ah ouais, les prénoms de toutes les poupées princesse poney.
Oui, ce sont des informations essentielles. Poney guimauve, poney sucre d'orge.
On oublie.
Remettez-les en place.
Trop tard, on peut pas récupérer ce qui est passé aux oubliettes.
Écoute, petit, on connaît notre boulot.
Quand Riley néglige un souvenir, il s'efface.
Il s'efface?
Ça arrive même au meilleur.
Oui, sauf ce petit bonhomme. Celui-là, il risque pas de s'effacer.
La chanson de cette pub de chewing-gum.
Ça nous arrive de l'envoyer dans les tuyaux sans raison.
C'est comme une petite rengaine qui tourne et retourne dans sa tête des millions de fois. Vas-y encore.
Oui, ça va, on connaît la chanson, oui, oui, j'adore.
Hey, qu'est-ce que t'en dis? On le renvoie?
Oui.
Allez, c'est parti.
Alors, alors c'est vous l'avez dans la tête, hein?
Oui, on va
la vider dedans.
Oui, c'est Vice-Versa.
Évidemment, bravo. Oui, c'est bien, c'est Vice-Versa. Film très intéressant, soit dit en passant, sur le fonctionnement du raisonnement, de la construction de soi, des émotions, mais aussi et surtout de la mémoire. Dans cette scène, hein, ce qu'on voit et qui est commun à nous tous, pauvres mortels, c'est l'oubli. Nous ne pouvons pas y échapper, c'est la manière qu'a notre cerveau de trier les informations. Rappelez-vous, Bob ne garde que le plus important, et parfois, il fait du tri aussi dans vos tiroirs.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
De retour dans le studio de Radio Alpa, exceptionnellement dans l'émission Perles de Culture, qui a emprunté les ondes de la percée de l'histoire à l'occasion des 40 ans de la radio. Nous parlons ce soir de mémoire. Alors, nous vous avons promis une chronique art et science. Vous avez tout à l'heure entendu un extrait du film d'animation Vice-Versa. Yann nous a expliqué les grands types de mémoire qui travaillent ensemble dans notre cerveau. Et je vais continuer avec le cinéma, mais pas n'importe lequel, celui que chacun se fait à l'intérieur de lui-même.
Oh, ça va Hélène, hein, tout le monde se fait des films, on a bien le droit.
Oui, oui Yann. Mais nous allons surtout revenir, Yann, sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, le lien qui existe entre la perception et la mémoire. Pour aborder ce sujet, je vais m'inspirer des travaux de Lionel Nakache, spécialiste des neurosciences cognitives, et plus particulièrement de son livre paru en 2020, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, chez Odile Jacob. Il a également donné une conférence en septembre dernier à Tours, avec l'Observatoire de la mémoire, on la retrouve sur leur site. Pour commencer, focus sur la perception. Le cinéma, on le sait, c'est 24 images secondes, 24 images fixes qui défilent si rapidement que notre cerveau crée les images intermédiaires qui nous donnent l'impression d'un mouvement continu. C'est ce qu'on appelle l'effet PHI, P-H-I. On s'en rend compte aussi avec les folioscopes, vous savez, ces petits livres dessinés qu'on fait défiler très vite pour que le dessin semble s'animer. Alors, comme souvent en neurosciences, ce sont les dysfonctionnements du cerveau de certains patients qui en font comprendre le fonctionnement. En 1983, Joseph Zille et ses collaborateurs ont publié à Munich un article consacré à une femme de 43 ans qui était devenue totalement incapable de percevoir les mouvements. Cette patiente souffrait d'akinétopsie, syndrome étrange et très rare qui se manifeste par des arrêts sur image de plusieurs secondes pendant lesquelles elle ne percevait qu'une image immobile, ce qui rendait son quotidien extrêmement compliqué, voire dangereux.
En fait, elle vivait dans un lag perpétuel, c'était horrible.
Exactement, ça, on a du mal à imaginer. Par exemple, traverser une rue, pour elle, c'était périlleux, puisqu'une voiture qu'elle avait vue arrêter à une grande distance de l'endroit où elle était pouvait se retrouver tout près d'elle au moment où elle commençait à traverser. Ou se verser un verre d'eau, par exemple, était devenu problématique, puisqu'elle voyait l'eau qui coule comme gelée. Et elle comprenait qu'elle en avait trop versé seulement quand elle découvrait l'eau répandue sur la table. Invivable. Cet exemple, pour vous expliquer que si une partie de notre cerveau n'était pas dédiée à créer l'illusion du mouvement, nous verrions le monde en saccadé. Et je pense, Yann, que notre espèce ne serait pas montée si haut dans la chaîne alimentaire.
Bah heureusement que notre cerveau fait tout ce boulot, hein.
Exactement. Et dans la même idée, en analysant les photorécepteurs de notre œil, vous savez, les bâtonnets, les cônes, les scientifiques ont découvert qu'en périphérie de notre vision, nous devrions physiologiquement voir en noir et blanc et flou. Et c'est notre cerveau qui, encore une fois, nous sauve la vie en coloriant avec ses petits pinceaux le côté de nos champs de vision et en nous donnant l'impression de netteté. Et pour les illusions optiques, les lignes droites qui se déforment, par exemple, ce genre de choses, ce qui est fou, c'est que même si on sait que c'est une illusion, on ne peut pas empêcher notre cerveau de se faire avoir. Ça s'appelle l'impénétrabilité de l'illusion. Tout ça pour vous dire que ce que fait le cinéma, créer une image, du mouvement, de la couleur, eh bien c'est ce que fait notre cerveau tous les jours en continu. Notre perception du monde n'est finalement que notre cinéma intérieur. Mais, Yann, ce cinéma n'est pas composé uniquement de ce que je perçois du monde, mais est régi également par ce que j'en connais, ce que j'imagine, ce que je désire, ce dont je me souviens. Bref, c'est la fête foraine là-dedans. Les infos viennent de l'intérieur et de l'extérieur, interagissent avec une réciprocité active et dynamique.
Ah oui, c'est des vraies montagnes russes,
en fait. Des vraies montagnes russes. Et c'est pour ça, par exemple, que quand notre esprit est préoccupé par quelque chose, on a l'impression de ne voir que des choses en rapport avec notre sujet. Thomas t'en parlait tout à l'heure. Par exemple, quand on attend un enfant, on voit des femmes enceintes partout. Et c'est ce qui explique aussi les signes qui nous arrivent. Vous savez qu'on adore. J'ai rendez-vous à 7h avec Juliette, et comme par hasard, c'est le bus numéro 7 qui arrive. Bon, vous l'avez tous fait. En réalité, on voit uniquement ce que cherche notre cerveau, ce sur quoi il est concentré. Il y a d'ailleurs des expériences qui ont été menées et qui sont incroyables. On peut faire passer un mec déguisé en gorille au milieu d'une scène sans que personne ne le voie.
Ah oui, alors véridique, Hélène m'a montré la vidéo sur YouTube. Allez chercher hein, si vous voulez, c'est impressionnant.
Ça s'appelle comment la vidéo ?
Alors la vidéo s'appelle « Le test du gorille invisible ». Ça a été mis au point en 1999 par Christopher Chabris et Daniel Simons, deux chercheurs en psychologie cognitive d'Harvard, surnommés depuis les Gorilla Guys. Et il y a un deuxième test qui suit, qui s'appelle le Monkey Business Illusion, c'est pour toi Yann. Alors bien sûr, les magiciens connaissent très bien tout ça, les trous dans la raquette de notre perception. Et là-dessus, s'ajoute l'imagination. L'imagination fait partie de la grande famille du cinéma intérieur. On sait aujourd'hui que les zones du cerveau qui s'activent quand on imagine sont les mêmes que celles qui s'activent lorsque l'on perçoit. Vous pouvez avoir les yeux fermés, votre cortex visuel s'activera quand même.
Oui, c'est ce qui se passe quand on rêve, par exemple.
Exactement. C'est ce qui se passe quand on rêve, quand on a des hallucinations. Et pour l'imagination, c'est pour ça que c'est très difficile d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas, finalement. Autour de la table et chez vous, on va faire un petit jeu. Représentez-vous un extraterrestre. On vous laisse 2 secondes. Vous l'avez en tête.
Ouais.
Alors, même s'il en a 5, il a probablement des yeux.
Ouais. Ouais. OK.
Même si c'est pas une bouche, il a certainement un moyen d'émettre des sons
et de s'alimenter aussi, ouais.
De s'alimenter. Et il a probablement des membres pour se déplacer, manipuler.
Mmh. Ouais. Ouais.
Bref, c'est un être humain déformé finalement.
Ouais. Alors, en fait, ouais.
Lionel Nakache, dans sa conférence sur le cinéma intérieur, explique que les récits imaginaires des différentes époques nous en apprennent finalement beaucoup sur ce que les auteurs percevaient et vivaient à l'époque. Et la mémoire dans tout ça, eh ben, on comprend qu'elle est centrale dans notre cinéma intérieur. C'est notre base, notre socle, qui inconsciemment nous sert à analyser, à ranger les informations qu'on reçoit, à ne pas voir certaines choses et à être attiré par d'autres. Alors, tout à l'heure, Yann vous a diffusé un extrait de Vice Versa, j'ai moi aussi un extrait de film. Ils sont vraiment en train de chercher, je pensais vraiment que vous ne connaîtriez pas du tout.
Salouane, il est concentré.
Ça va prendre 3 heures.
Salouane, il a son Guillaume qui est en train de chercher très loin. Ça te parle ?
Est-ce que c'est un Ghibli ?
Non.
Non.
Non. Est-ce que c'est Freezer ?
Non plus.
Bon, bah, je l'ai pas.
Au revoir.
Thomas, Simon ?
Ah non, bah là...
Yann ?
Ah bah, alors, moi, je suis peut-être pas nipponophobe.
Bravo pour
phone,
ce joli
pardon,
mot.
Oui, c'est
non,
comme ça que...
Non.
Oui. Fun.
Nipponophone.
C'est comme ça qu'on dit ceux qui parlent japonais. Mais je peux quand même vous dire que c'est
pour
le
préparer
nom de ce film.
Alors, c'est quoi ?
Il s'agit du film Rashomon, un film évidemment japonais de 1950 réalisé par Akira Kurosawa.
Exactement. Dans ce film, un bûcheron découvre un corps et un procès est ouvert. 4 personnes vont apporter leur témoignage et présenter des versions très différentes du même crime. C'est un film de référence étudié dans les écoles de cinéma et qui a donné son nom même à l'effet Rashomon, qui désigne le fait que plusieurs personnes décrivent différemment le même événement. C'est ce qui s'est passé au début de l'émission avec vous tout à l'heure. Et car en réalité, le jeu, moi, ma personne, fabrique le sens que les choses ont pour moi. Donc pour conclure, dans notre cinéma intérieur, nous sommes donc le spectateur, mais aussi le réalisateur, le monteur, le personnage principal, l'acteur, la caméra et l'écran de projection.
Ouais, tout ça.
Alors, on vous a présenté 2 extraits de films, on en a 2 autres. Si vous êtes motivé, on peut vous faire un petit blind test.
C'est parti.
Ouais.
Joël, les effaceurs vont débarquer ici, alors pourquoi tu m'emmènerais pas ailleurs, dans un souvenir où je suis pas dedans? On s'y cachera jusqu'à demain.
Oh oui, je n'ai pas le moindre souvenir sans toi.
Oh, c'est adorable, mais tu dois essayer, d'accord?
D'accord.
Alors? Ça vous parle?
Je l'ai pas celui-là.
Pas du tout.
Moi, un monsieur, un Joël.
Un des personnages s'appelle Joël, tout à fait. L'autre, c'est Clémentine.
Ouais.
Joël et Clémentine. Non,
Ça vous parle pas, un film
non,
avec Jim Carrey et c'est Kate Winslet, je
ouais,
crois
c'est ça.
Ouais.
Moi, c'est un de mes films cultes, un de mes films de référence. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dans ce film, on peut demander, il y a une entreprise spécialisée qui efface certains souvenirs. Par exemple, si on veut oublier une personne, et là dans le film c'est ce qui se passe, on doit donner tous les objets bien sûr chez soi qui nous rappellent la personne, expliquer et c'est enregistrer tous les souvenirs qu'on a et les personnes vont venir la nuit pendant qu'on dort pour effacer tous ces souvenirs. Et l'extrait qu'on vient d'entendre, finalement ils effacent les souvenirs les plus récents. Donc là, c'est un couple qui se sépare, donc les souvenirs les plus récents sont les plus douloureux. Et plus ils effacent les souvenirs lointains, plus ils arrivent sur des souvenirs joyeux finalement et heureux. Et donc les deux personnages cherchent des souvenirs dans lesquels, comment dire, que Joël n'aurait pas forcément raconté, des souvenirs où elle n'était pas censée être, pour se cacher et finalement sauver leur histoire. Donc ils se retrouvent dans des moments de la vie de Joël plus ou moins honteux, en fait, des choses qu'il ne lui avait jamais racontées. Est-ce qu'on a encore un petit extrait en réserve ?
Eh bien, c'est parti.
Alors, où on va ?
La dernière chance.
Oh, t'es du genre à commencer par la fin ? C'est ta première fois sur Mars ?
Oui. Enfin, on va dire non. Enfin, si on veut.
Génial, le mec. Il sait même pas s'il est déjà venu sur Mars ou non. Je te montre le chemin.
Tu veux connaître l'avenir ? Vous faites pas le passé.
Allez, c'est juste au coin de la rue.
Alors ?
Eh ben, faut aller au cinéma plus souvent.
Alors attends, parce qu'on a peut-être des gens derrière, qui ont la réponse.
Il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse. Un film qui se passe sur Mars avec un certain Arnold.
Ah, oui.
Terminator. Ouais.
Non, ah, bah non. non, mais il est avec les... C'est le... Mars Attack, non,
non.
Non, c'est pas
non,
ça.
C'est pas celui-là.
Ah, je l'ai vu en plus ce film sur une pas en cassette, mais je crois que c'était un DVD.
Ah ouais, il est plus jeune.
On
n'a
plus
jeune,
les
film,
commentaires des personnes.
Non, parce
ça
que les personnes malheureusement ne nous voient plus.
D'accord. Ah, c'est Twitch, alors moi par message, j'avais un Julien qui avait trouvé Rashomon. Je sais pas s'il l'a celui-là.
Rashomon, il est déjà passé.
Non, il l'avait trouvé, mais oui, du coup ouais, peut-être ouais, que je pose la question.
Est-ce que c'est un film Disney? J'ai un film dans la tête, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais un Disney, un film.
C'est pas seul sur.
Ah oui, on l'a. Moi je l'ai.
Ah, tu l'as sur les commentaires
ouais. Bah, vas-y. J'ai Julien qui a Total Recall.
Exactement, c'est Total Recall avec notre fameux Arnold Schwarzenegger où voilà, le personnage principal découvre qu'il est envoyé sur Mars pour effectuer une mission et au fur et à mesure du film, il se rend compte qu'il est déjà venu sur Mars pour effectuer la même mission, quelque part, quelque chose près, hein, mais qu'il n'en a aucun souvenir et donc c'est à la recherche de ses souvenirs où il part, il recherche en fait... Bah, tout ce qui a pu lui arriver auparavant, il y a aussi, je crois, une histoire d'amour. Et puis, il y a cette fameuse scène finale avec les yeux qui sortent des orbites quand il
se
retrouve.
Voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que ça, je pense qu'en fait, finalement, et on s'en rend compte là, enfin, moi, je m'en rends compte au fur et à mesure de cette discussion, mais le souvenir est peut-être est très présent dans l'univers cinématographique. Même, je pense à des séries là récemment. Je sais pas si tu regardes Moon Knight. Qui est très récent.
J'ai pas encore commencé.
Ah bah je t'ai spoilé. Bah,
ah oui, avec Oscar Nickel. Isaac.
Bravo. Ouais. Non mais ouais, mais là c'est pareil. Enfin, il y a énormément. C'est très présent.
On peut
très présent.
Citer Titanic.
Oui, pourquoi pas. Et même ce film aussi dans le dernier Spider-Man. Mais là, j'en dirai pas plus non plus. Mais il y a vers la fin, il est aussi question du souvenir, de la mémoire.
Oui.
Avec voilà,
le multivers.
Donc c'est vrai que c'est très présent.
Ouais, ouais c'est, mais on se rend compte au final que tous les thèmes de la mémoire, du souvenir, etc., c'est quelque chose qui est très présent, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le cinéma, dans la littérature aussi, avec, bah, pour n'en citer qu'un seul, Marcel Proust, hein, pour le reciter. Et puis, de manière générale, dans beaucoup d'œuvres aussi, pour voilà, les œuvres aussi bien cinématographiques, artistiques, les tableaux, etc., c'est toujours, ça tourne assez souvent autour de la mémoire.
Alors vous qui faites de l'histoire, mais si on va raccrocher vraiment la mémoire à l'histoire. Alors moi j'ai un sujet en fait de dissertation à vous soumettre. Voilà, je sais que vous êtes en plein examen en ce moment, alors j'ai décidé d'en rajouter une couche.
Ah.
Ça vous fait plaisir ?
Ouais,
alors,
très plaisir.
C'est le sujet que j'ai eu quand j'ai passé mon bac philo. Vous êtes prêts ? La mémoire suffit-elle à l'historien ? Voilà, vous avez 4 heures. Je crois que vous avez un live de 12 heures qui arrive bientôt. Vous pourrez. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, on va consacrer les 12 heures à cette question.
La réponse est non. Ouais.
C'est voilà. Non,
bah, déjà, moi, j'ai passé 4 heures à répondre à cette question, bah, ouais. Salouane.
Une question avec suffit-elle ? Donc déjà,
ça induit déjà.
Pour pas être bête, quoi. Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Oui, tu réponds oui et c'est fini.
Oui,
la question.
Oui, point.
Mais du coup, t'as 0. En tout cas, 0,5. Non, c'est une bonne question. Mais suffit-elle à l'historien ? Qu'est-ce que t'en penses, Tassou ?
Non.
Non, parce qu'il faut. Il faut
bah la parce que la mémoire, c'est quoi la mémoire ?
Eh bien, c'est une excellente question à laquelle tu vas pouvoir
répondre. Moi, je réponds
à
une question, pas une question.
Non, mais il faut y répondre maintenant.
Alors, on a eu un aperçu de ce qu'est la mémoire, donc comment ça fonctionne dans le cerveau.
En termes d'histoire.
Ensuite, comment est-ce qu'elle interagit aussi dans notre perception ? Et vous, d'un point de vue d'historien, comment est-ce que vous utilisez la mémoire ? Ou comment est-ce que les historiens utilisent la mémoire ?
Ben ça,
ou comment la société utilise
ça,
la mémoire ?
Ça, c'est bien complexe parce que c'est tout ce qui est sur les. Devoirs de mémoire, oui, les mémoires,
oui, exactement,
exactement,
les
ouais.
Comment mémoriels, bah, j'ai plus le premier mot.
Bah les
l'histoire mémorielle, tout simplement.
Oui, mais
bah,
la mémoire collective.
Les mémoriaux d'ailleurs.
La mémoire collective.
Oui,
voilà.
Collective. Rappelez-moi, vous êtes étudiant aussi, hein, c'est ça ?
Oui.
Vous êtes en quoi ? En licence, master ?
Master.
Master. Ok. À la fin de votre master, vous allez rendre
un mémoire.
Ben voilà.
C'est beau.
C'est vrai, et j'avais lu, j'ai plus lu l'histoire, c'est dommage, mais j'avais lu, regardez pourquoi ça s'appelait comme ça.
Ouais, parce qu'avant, ça s'appelait une maîtrise.
Non, mais oui, mais c'est, ça date.
Non, c'était le master, la maîtrise.
Non.
Oui. Mais là, on parle
de mémoire. Le mémoire, la production.
Pourquoi on appelle ça mémoire,
Oui.
Ouais, c'est vrai qu'un mémoire, on l'imagine vraiment à la fin de sa vie, au cours de sa vie, on écrit ses mémoires, mais là, ouais, dans le cadre scolaire.
Général de Gaulle.
Mémoire du général de Gaulle, bien sûr. Non mais donc oui, en effet, la mémoire collective, qui alors c'est une notion qui est assez ancienne quand même malgré tout, parce que ça c'est quelque chose qui a été abordé dans les années 20, mm-hmm, par Maurice.
Alors comment il s'appelle ?
Il révise en même temps, hein, excusez-nous.
Albois.
Albouax.
Il y a un CH à la fin. Albouax, je ne sais pas
fait.
Comment.
Albouax. Qui est un sociologue, en fait. Albouax. Donc, à la base, ce n'est même pas forcément un historien, qui est un sociologue. Et donc, qui a interrogé cette question de mémoire collective. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que pendant de nombreuses années, il y a aussi cette question du. En fait, c'est un peu lié, finalement, histoire et mémoire à roman national et mémoire collective. Parce que c'est très politique, forcément. La mémoire collective, c'est ce qu'on décide de garder. Et forcément, pendant tout un moment de l'histoire, il y a eu cette notion de roman national, c'est-à-dire de garder finalement en mémoire collective que les grandes figures, que les bonnes choses finalement de l'histoire. Alors évidemment, ça n'est pas le cas. On peut prendre pour exemple l'exemple le plus concret, c'est la mémoire de Vichy. Il y a eu des véritables travaux là-dessus, notamment de, si je retrouve le nom, je vais le retrouver, mais c'est Pierre Nora, je crois. Ouais. Et Henri Rousseau, oui. Il y a eu des vrais travaux là-dessus, donc dès les années 70, enfin, oui, 70, parce qu'en fait, ils décrivent en trois périodes, c'est-à-dire qu'au départ, Henri Rousseau, pour lui, donc il a écrit un livre en 87 sur justement cette mémoire de Vichy, en disant qu'au départ, en fait, c'était de 44 à 54, un peu le deuil compliqué, parce que bah, forcément, on sort de la guerre et qu'on est... on oscille entre, d'un côté, le mémoire de la collaboration, de la déportation qui est douloureux, et puis de l'autre côté, la mémoire de la résistance. Donc là, on voit deux mémoires qui s'opposent. Ensuite, dans les années 54 à 71, là, il n'y a qu'une seule mémoire qui a été conservée, je vous laisse deviner laquelle.
La fameuse résistance. France résistante.
Exactement. Donc là, c'est le mythe de la France résistante, c'est ce qu'on appelle le résistentialisme. Et donc, pour vraiment dire, voilà, tout le monde résistait, c'est bien connu. Et suite à quoi ? Eh bien, dans les années 71-74, là, il y a eu un vrai travail aussi d'historien, comme je pense à Paxton, j'ai plus son prénom, mais c'est Paxton, un historien américain, qui, lui, a vraiment déconstruit ça en disant, bah non, en fait, tout le monde n'était pas du tout résistant. Et loin de là, le régime de Vichy a même, de lui-même, de manière volontaire, engagé des déportations, etc. Donc bref, voilà, là, on voit bien aussi toutes les petites nuances et que cette mémoire collective, finalement, elle évolue à travers l'histoire. Et je prends cet exemple-là, mais cet exemple-là, il peut être pris pour n'importe quoi d'autre.
Oui, on le fait beaucoup en ce moment, ça d'ailleurs, je trouve, justement dans la mémoire, de revenir un petit peu aussi sur les moments moins glorieux.
Exactement, exactement. Mmh. Et ça pose, c'est là qu'on voit parfois les historiens qui se confrontent sur des différents points de vue, parce que ça relève, en fait, j'ai une formule, il faut que je la retrouve, mais disons que en fait, finalement, la mémoire collective, elle divise, alors que la mémoire, les faits historiques, entre guillemets, parce que c'est... Ça relève d'un travail d'historien, mais eux sont beaucoup plus, servent à unir plutôt, puisque c'est des faits entre guillemets.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le passé est toujours en mouvement. Le passé n'est pas figé finalement. Selon comment on le raconte, selon ce qu'on a envie de mettre en avant, selon des découvertes aussi qui sont là sur le passé vraiment beaucoup plus longtemps, mais préhistoire, etc. En fait, le passé évolue en fonction des découvertes qui sont en fait aujourd'hui, quoi. Donc tout est en mouvement, le passé, le présent, le futur.
Exactement, et cette remise en question perpétuelle de la mémoire, puisque donc, la mémoire collective relève de choix politiques aussi, entre guillemets, et en même temps, elle est liée à la mémoire individuelle, parce que pour reprendre ce Maurice Albouax, bon, je pense que j'arriverai jamais à le prononcer.
Avec un W, c'est CH à la fin.
Mais lui dit, la mémoire individuelle est finalement un point de vue sur la mémoire collective, parce que si elle est collective, on est bien chacun d'entre nous à la pensée. Du coup, c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais ça.
Mais elle est orientée justement avec les mémoriaux, avec les œuvres d'art qui sont érigées aussi, les statues. D'ailleurs, en ce moment, il y a les débats. Est-ce qu'on laisse certaines statues,
exactement,
etc.
Ouais, ça relève vraiment de débats sur la mémoire.
Ouais, il y a vraiment cette mémoire qui, en fait, qui est externalisée finalement par les mémoriaux, les statues, etc. Mais aussi les livres d'histoire, toutes ces histoires réelles qui se sont passées et qui ont été d'ailleurs, soit dit en passant, rédigées par les vainqueurs. voilà.
Prendre l'exemple de César, la guerre
par
des
exemple.
Gaules.
Exactement.
Aujourd'hui, on dit. En tout cas, à l'époque, c'était comme source, puisque c'était l'unique source.
La seule, et c'est toujours la seule source littéraire qu'on a de l'époque contemporaine
c'est
de l'époque.
Ça. Ouais. Donc forcément, au départ, on prend ça en se disant, que oui, c'est évidemment du point de vue des Romains.
Exactement.
Sur les Gaulois.
Oui, c'est comme le terme Gaulois. Qui sont les Gaulois?
Voilà.
Il n'y a pas de réponse à cette question.
Qui sont les Gaulois 4 heures de plus?
Mais oui, non, mais il n'y a pas
on
de réponse.
On voit les étudiants encore un petit peu là. alors, on va juste reprendre là. On a expliqué comment fonctionne la mémoire. On a parlé du cinéma intérieur avec Hélène, que tout le monde se fait, hein. On est d'accord, tout le monde se fait des films.
Oui, parfois.
On a parlé aussi de la mémoire collective, ça c'est ce qu'on vient d'évoquer, que tout le monde partage, tout le monde connaît la Tour Eiffel et sait comment est-ce qu'elle a été construite, et pourtant, personne aujourd'hui, ici de vivant, n'a vu la Tour Eiffel se construire, ou alors très très peu de personnes, je pense.
Et là, ça m'étonne.
Voilà. Et alors, demain, même si on en parle maintenant, mais demain, pour vous, et qu'est-ce qui pourrait être l'avenir de notre mémoire ? Comme on vient le voir, l'humanité a toujours su enregistrer sa mémoire. Hein. De Lascaux, quand nos ancêtres très lointains dessinaient sur les parois d'une grotte, à aujourd'hui les ordinateurs, Facebook, etc. On a toujours enregistré notre mémoire en se servant de support, et c'est même aujourd'hui carrément devenu un réflexe. Hein. À chaque fois qu'on voit quelque chose de sympa, moi tout à l'heure je suis arrivé au Mans, je ne connaissais pas du tout la ville, j'ai pris une photo. J'ai pris la cathédrale en photo pour m'en souvenir. On a recours à ces éléments extérieurs pour nous aider. On peut même parler de prothèses de mémoire. C'est désormais admis qu'on dispose tous, aujourd'hui, d'outils qu'on utilise au quotidien et qui nous servent de mémoire. Je le disais tout à l'heure, nos smartphones. Réfléchissez-y. Il est toujours à portée de main. Vous le sortez pour aller chercher une info vite fait sur Google, pour trouver la route vers le resto où vous devez être dans 20 minutes, et même pour vous rappeler que vous avez réservé une table pour dans 20 minutes. Nos souvenirs, notre mémoire, sont digitalisés. Oh, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Grâce à tout cet espace de gagner dans notre mémoire, on trouve plus facilement le temps et les ressources pour se concentrer sur ce qui compte pour nous, apprendre davantage, créer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Notre cerveau a littéralement plus de mémoire vive.
On est en train de devenir des ordinateurs, en fait.
Exactement.
Ah bah, c'est rassurant.
Bah, alors, quand même, grâce à la science et la médecine, hein, grâce à beaucoup d'ordinateurs aussi, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont même réussi à booster la mémoire. Le docteur Dong Song, c'est pas une blague, a en effet mené une expérience en 2017 avec certains de ses patients atteints d'épilepsie et équipés d'électrodes cérébrales pour contrôler leur maladie. On a entendu parler. En reprogrammant ces électrodes, la chercheuse est parvenue à augmenter de presque de 30% les capacités mémorielles de ses patients à court et moyen terme. En quelque sorte, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, ils ont réussi à se passer de leur Guillaume pour donner directement l'information à Bob. Et bien sûr, comment ne pas faire le parallèle avec une mémoire que nous connaissons tous et que nous utilisons tous, cette merveille qu'est l'informatique.
C'est marrant d'ailleurs comme le vocabulaire s'est transposé de l'être humain à la machine et vice-versa. Quand on parle des ordinateurs, on parle de mémoire et nous, ben, on bug régulièrement.
C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, les octets qui s'accumulent dans nos disques durs, nos clouds, nos cartes SD, tout ça c'est un petit peu des petits mémoriaux personnels. Et depuis quelques années, on est même parvenu à encore plus donner cette capacité de mémoire à nos propres ordinateurs. À votre avis, comment votre téléphone est capable de savoir à quelle heure vous devriez vous lever ? Comment l'algorithme de YouTube fait-il pour vous proposer cette vidéo que vous ne connaissez pas, mais que vous allez sûrement adorer ? Les machines se souviennent, et à la manière d'un enfant qui met les bras en arrière quand il tombe, jusqu'à comprendre que si on les met devant, on se fait moins mal, croyez-moi, j'ai essayé. Les robots sont capables d'apprendre de leurs erreurs pour ne plus les reproduire. C'est ce qu'on appelle le machine learning, littéralement l'apprentissage de la machine. Mais toutes ces merveilles peuvent également avoir un prix. Avec toutes ces données qui s'accumulent où aucune place n'est laissée au vide, le besoin d'oubli s'en trouve bafoué. Qui n'a jamais dit un jour « j'aurais préféré oublier cette soirée » en se sentant un peu honteux de cette phrase ridicule qu'on a dite devant toute sa famille ? Qui ne voudrait pas à jamais oublier cet ex qui ne nous méritait pas vraiment ? Impossible aujourd'hui d'oublier la moindre photo, le moindre post Facebook qu'on aurait la flemme d'effacer. La moindre minute écoulée à filmer, enregistrer, graver dans le temps ces bribes de notre autobiographie.
Il faut que je croie qu'il y a un monde en dehors de mon esprit. Il faut que je croie que mes actes ont encore un sens, même si je les oublie. Je dois croire que lorsque je ferme les yeux, le monde est toujours là. Est-ce que je crois que le monde est toujours là ? Est-ce qu'il est toujours là ? Oui. On a tous besoin de souvenirs pour savoir qui on est. Je ne suis pas différent des autres. Bon, Qu'en étais-je ?
Très très bel extrait qui conclut très bien l'émission, car nous pouvons dire que la mémoire est le cœur de notre identité.
Exactement. Tout au long de notre vie, nous et nos ancêtres avant accumulons des souvenirs. Nous en retenons certains, d'autres s'évaporent, mais tous nous constituent tels que nous sommes. Ils sont une partie majeure de notre vie.
Grâce à eux, nous soulevons des montagnes, nous exprimons nos peurs et nos passions, nous nous appuyons sur leur variété et leur caractère unique pour forger notre caractère, nous les utilisons même pour prévoir notre futur.
Vous l'avez compris, nos souvenirs peuvent nous hanter ou nous sustenter, mais dans tous les cas, ils nous définissent. Sans eux, nous sommes seuls à errer dans le noir.
C'est beau.
Merci.
Et on est en train de revenir à des voix chaudes et monocantes, voix de nuit,
oui,
les voix dont on parlait
ça,
tout à l'heure avec Jean-Yves. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Percée, Simon, Thomas, Alouane, merci Jean-Yves pour l'invitation,
merci
Cédric, toute l'équipe actuelle de Radio Alpa, ceux que j'ai connus, ceux que je n'ai pas connus, mais bravo vraiment pour tout ce que vous faites à la radio.
Non, ce qui est assez extraordinaire à vous réentendre, c'est aussi rappeler la qualité des émissions bénévoles. Souviens-toi que tu étais pour Radio Alpa aussi une interlocutrice importante concernant les partenariats culturels que nous pouvions avoir, par exemple, avec l'ESPAL.
C'est vrai.
Donc, comme quoi, on peut être bénévole dans une radio associative et être pleinement investi, engagé au service de la culture sur son territoire et pour une radio locale.
Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, et puis merci de m'avoir rappelé à chaque fois pour la 25e heure. J'espère vraiment que les radios associatives
Alors,
vont de nouveau avoir leur place.
Normalement, la ville du Mans devrait redemander à la Frama de revenir à la 25e heure, qui ne s'appelle plus la 25e heure, mais qui s'appelle Faites lire désormais.
Oui, ça serait vraiment bien parce que je trouve que ça apportait vraiment un dynamisme à ce salon. Bah, tu me tiendras au courant.
En tout cas, un grand bravo à vous deux, moi je dis, pour ce retour exceptionnel.
Oui, merci,
bravo,
merci à tous les trois.
Incroyable.
C'était vraiment super, donc bravo à vous.
Bah merci.
C'est un plaisir de vous accueillir.
Merci à vous, puis merci Yann aussi pour cette nouvelle collab. Tu es en train de devenir accro toi aussi ?
Ouais, complètement.
Ouais,
complètement.
C'est fou ça. La radio, on peut plus s'en passer en fait.
Autour le Mans, ce n'est pas très loin.
C'est pour une saison.
Ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir.